Chapitre 19. Le bâtiment, tout droit sorti de l'imaginaire fiévreux d'Edgar Allan Poe, découpait sa silhouette dans le ciel radieux en dessinant une tache menaçante, à la façon d'un palais hanté habité par un silence oppressant. Cet ancien lycée avait été victime d'un drame lors d'une marche pour la paix organisée un samedi soir, 8 mois plus tôt. Personne n'avait su expliquer comment une simple manifestation pacifique avait pu basculer de la sorte dans la violence. Plusieurs personnes présentes, affirmant que la politique n'avait rien à voir dans les troubles survenus ce soir-là, racontaient que le rassemblement avait été infiltré par un groupuscule raciste qui avait déversé sa haine dans le système de sonorisation, ce que contestait une partie des survivants. Indépendamment des causes, ceux qui avaient apporté des cocktails Molotov et du napalm n'avaient pu être identifiés. Et les enquêteurs s'étaient étonnés qu'autant de manifestants soient venus armés alors qu'il était uniquement question de promouvoir la fraternité. Si le gymnase de 1200 places n'avait pas accueilli 200 personnes de trop et si certaines issues n'avaient pas été bloquées, sans doute aurait-on dénombré moins de 300 victimes. De même, le bon fonctionnement des alarmes à incendie aurait permis aux secours d'arriver plus vite, et le bâtiment aurait pu être sauvé. En dépit de plusieurs enquêtes locales et fédérales, le drame de ce rassemblement pour la paix le jour de la fête de l'indépendance conservait tout son mystère. Jane ne disposait d'aucun élément d'information particulier, mais elle soupçonnait cette tragédie d'avoir été provoquée par des membres de la liste Hamlet, poussés au suicide par les Arcadiens. Ces derniers avaient l'habitude de travestir leurs actions en attentats terroristes de façon à créer le chaos dans le pays et inciter la population à réclamer davantage d'ordre. La restriction des libertés publiques qui en découlerait, tout comme l'accroissement des mesures de sécurité, ferait un jour le jeu des organisateurs du complot en leur permettant de prendre le pouvoir avec la bénédiction du plus grand nombre. Des barrières avaient été installées tout autour de l'établissement scolaire, mais les bâches de protection avaient été partiellement déchirées par les curieux. Les pancartes signalant la présence de matériaux toxiques et la précarité de l'édifice étaient constellées de graffitis obscènes. Le bâtiment aurait déjà été rasé si les autorités fédérales n'avaient pas exigé que les ruines restent en l'état tant que l'enquête ne serait pas bouclée. Sur l'arrière, à l'abri des regards, le campus du lycée englobait un terrain de football américain, flanqué de tribunes, que Gilberto traversa au volant du GL550. Il prit de la vitesse et enfonça la barrière. Le Mercedes, phare brisé et capot enfoncé, stoppa sur l'ancien parking des enseignants dont le macadam avait partiellement fondu le jour de l'incendie. Jane et Gilberto se trouvaient à 1 kilomètre de la rue résidentielle où l'ancien marine avait garé son Suburban tôt ce matin-là. « J'ai repéré un raccourci, » dit-il à sa compagne. « J'en ai pour 10 minutes, peut-être même moins. » Ils remirent en place la barrière du mieux qu'ils le pouvaient, de sorte qu'un passant éventuel ne remarque rien. Puis Jane fit le tour du 4x4, souleva le haillon et prit le pouls de Hendrickson. Le cœur battait un peu trop lentement, mais régulièrement. Elle souleva le bandana rouge, vit les yeux du prisonnier s'agiter derrière ses paupières, et reposa le foulard après avoir vaporisé dessus un peu de chloroforme. Le soleil n'avait pas encore atteint son zénith, mais l'ombre du lycée était anormalement longue pour un milieu de journée. Tout était silencieux au milieu des ruines, sans un chant d'oiseau, seule la rumeur lointaine de la circulation parvenait jusqu'à Jane. Jusqu'au moteur du Mercedes qui n'émettait pas les cliquetis habituels en refroidissant, comme si les 300 âmes qui s'étaient envolées là en l'espace d'une heure funeste avaient transformé les alentours en zone morte. Simon avait dû être découvert dans sa maison de Newport Coast à 7 heures. Il était sûrement libéré. Les Arcadiens devaient savoir que le Mercedes avait disparu. Ils étaient sans doute en possession du numéro d'immatriculation et ne tarderaient pas à obtenir du constructeur du 4x4 les coordonnées de son GPS. Jane ne se faisait guère d'illusions. Il était peu probable que le choc avec la barrière ait suffi à réduire au silence la balise du véhicule. Les loups seraient bientôt là.